Merci Seigneur Jésus encore pour merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps d'adoration, merci pour l'intimité que nous pouvons avoir avec toi. Merci parce que tu es un Dieu qui parle, merci parce que tu es un Dieu qui exauce, merci parce que tu es un bon Dieu, merci parce que tu es un bon papa. Nous te louons, nous t'adorons et merci de m'aider à retranscrire ce que tu as mis sur mon cœur pour ce matin. Amen. Le sujet, il est relativement simple. Comment prendre une bonne décision? Et ce matin, j'avais envie de nous donner voilà, quelques idées par rapport à ça. Parfois, donc c'est une introduction, parfois je suis ou nous sommes en tant que pasteur ou en tant que serviteur de groupe de maison, parfois nous sommes surpris de l'immaturité, entre guillemets, parfois de certaines personnes quand il s'agit de prendre des décisions. On a des versets bibliques, on a des idées sur Dieu, et quand il faut prendre des décisions, parfois on a l'impression que les gens, un mélange de panique, un mélange de « mais comment on fait pour prendre une bonne décision ?» c'est pas fluide. Alors l'idée ce matin, c'est pas du tout de donner une nouvelle loi de Moïse, c'est pas du tout de donner des principes, mais c'est de donner comme un peu des clés, ou c'est comme un peu une grille de lecture ou un filtre qui peut nous aider. Nous aider évidemment à prendre, quand on dit une bonne décision, c'est une décision selon le cœur de Dieu, selon les principes bibliques. Évidemment. Et je me rappelle avoir été, j'étais plus jeune, j'étais encore plus beau, déstabilisé à une réunion où j'étais avec deux pasteurs. Je l'ai déjà donné ce témoignage parce que ça m'a vraiment perturbé. J'avais un des pasteurs qui disait, moi, je fonce, tant que Dieu ne m'arrête pas ou il ne me dit pas non, j'avance. Dans le sens, toutes mes décisions, je sais ce qu'il faut faire, j'avance. Et Dieu, si un jour il y a besoin, il me dira non ou il m'arrêtera. Et ça, c'est un pasteur qui fait beaucoup de choses et tout, qui me dit ça. Côté missionnaire, évangéliste, tout ça, mais vraiment quelqu'un avec une vraie grande maturité qui dit ça. Et c'était la même journée, un autre pasteur, lui aussi qui gère beaucoup de choses, plus un côté pastoral, et qui lui nous explique, tant que je n'ai pas le oui de Dieu, je ne bouge pas. Moi, je suis là dans la même journée, deux personnes que je respecte, où tu sens qu'il y a du poids, et moi tout seul, là, je me dis, mais vous avez dit le contraire, les gars. Enfin, je n'ai pas dit les gars, mais les deux, vous m'avez dit le contraire. Un qui me dit, je fonce tant que je n'ai pas un nom de Dieu, et un qui me dit, moi, je ne bouge pas tant que je n'ai pas le oui de Dieu. Et c'est en toute transparence, ça m'a quand même perturbé. Parce que je me dis, je fais quoi? Et surtout, dans ma vie de tous les jours, je fais quoi? Je prends le premier, je prends le deuxième, je prends quand ça m'arrange. Du coup, ça m'a... Alors maintenant, avec le recul, j'ai compris. J'ai beaucoup plus, voilà, je le vis beaucoup mieux. Mais ces deux personnes, le même journée, ça m'avait un peu perturbé. De la même manière, je me rappelle... Alors j'ai pris des exemples aujourd'hui qui nous concernent de très loin, pour pas que, voilà, pour pas... Parce que sur les décisions, évidemment, on prend des bonnes décisions, des mauvaises, et je veux pouvoir donner des témoignages, parce que souvent, les gens se rappellent des témoignages. Et une fois, donc c'était il y a des années, un couple qu'on connaît, pas chrétien, mais quand même avec des valeurs, etc. C'est très loin d'ici, enfin, très loin, c'est à 600, 700 km d'ici. Et ils me demandent si on peut faire une cérémonie pour le mariage. Sauf qu'ils ne sont pas chrétiens, quand même des valeurs, mais pas chrétiens. Et moi, je me dis, ben, du coup, ce n'est pas l'église que j'engage, c'est moi, Pierre, en tant que pasteur, qui y vais, et pouvoir partager quelques mots. Et je sens que Dieu me dit, oui, vas-y. Et j'en profite pour faire quelque chose de témoignage, d'évangélisation, évidemment sur la Bible, mais du coup, j'interpelle les gens. Première partie, les principes bibliques d'un mariage. Tu ne tromperas pas ton conjoint, la fidélité, vous voyez, des choses comme ça, la bienveillance, honorer l'un l'autre. Tout le monde dans la salle est plus ou moins d'accord avec ça. Deuxième partie, pour y arriver, il faut Jésus. Évidemment, un petit côté d'évangélisation. Mais je sens que Dieu me dit, c'est bon, tu peux y aller. Et à l'inverse, ici, dans notre assemblée, on a des fois des demandes de gens qui sont en dehors de l'Église, d'inconvertis, mais qui voudraient qu'on fasse la cérémonie. Et là, on leur dit non. Parce qu'ici, on engage l'Église, ici, c'est la maison de Dieu. Là-bas, j'interviens comme un côté, entre guillemets, d'évangélisation. Et surtout, j'en ai parlé avec des futurs mariés en leur disant, j'interviens en tant que Pierre. Ce n'est pas l'Église qui, voilà, parce que sinon, il faut mettre des choses en règle, il faut vivre une vraie relation avec Dieu. Et à l'inverse, ici, quand j'ai des inconvertis qui veulent faire un mariage ici, je leur dis non. Je leur explique pourquoi. On fait un début de préparation au mariage, parce que l'idée, c'est de les amener à la foi. Mais sur le principe, ben non, parce que je leur dis, mais pourquoi vous voulez marier à l'église si vous ne croyez pas en Dieu? D'accord? Et on a cette conversation. Vous voyez, on a l'impression qu'on a deux choses assez proches, assez similaires, et dans la prise de décision, Dieu m'a amené une fois à dire oui et une fois à dire non. Alors que sur le papier, ça ressemble quand même, ça ressemble assez fortement. Donc comment on fait quand on a des sujets comme ça? pour se dire, mais là, ça vient de Dieu, là, ça ne vient pas de Dieu. J'ai mis 5 points. Encore une fois, ne prenez pas ça à la lettre. C'est des principes et des idées que je veux partager pour qu'on puisse se nourrir de ça pour quand on a des décisions à prendre. Le premier point, vérifions nos motivations. Vérifions nos motivations. J'ai pris 2-3 versets bibliques. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'autres traductions disent recherchez les réalités d'en haut. Comme si, 2 Corinthiens, pareil, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Ces quelques versets nous montrent qu'il y a une réalité spirituelle. Et quand on s'intéresse à ces réalités spirituelles, ça a un impact sur les décisions que nous prenons sur cette terre. Je reformule. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous invitent à nous intéresser aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Et quand on s'intéresse aux choses de Dieu, ça nous aide dans notre vie pratique, dans notre vie concrète, dans notre vie sur cette terre. Et les motivations, c'est qu'est-ce qui nous motive au début? Qu'est-ce qui nous motive quand on prend une décision? Et quand c'est des grosses décisions, on va se poser, on va prendre le temps d'y réfléchir. Quand c'est des décisions rapides, simples, etc., on va peut-être moins se poser la question. Toujours est-il que quand on commence à s'intéresser aux réalités d'en haut, ça a un impact dans ma vie de tous les jours et dans les décisions que je veux prendre. Et Dieu, il s'y intéresse. Souvent, quand il y a un match de foot, j'ai la discussion. Ouais, mais s'il y a des chrétiens dans les deux équipes, les deux, ils prient pour gagner. C'est vrai, je pense, probablement. Et alors, Dieu, il est suffisamment grand pour répondre. Dieu, il est suffisamment grand et Dieu, il s'intéresse. Et Dieu, une autre fois, je me rappelle, il y avait une jeune femme qui me disait j'avais problème de dos et j'ai commencé à prier parce que je partais en colo et pour avoir un bon lit. Et elle me dit, au moment où je commençais à prier, c'est comme si je disais, mais Dieu, il ne s'intéresse pas à ça. Et j'ai envie de te dire, ben si. Dieu, il est suffisamment grand, compétent, énorme, qu'il est capable de juste répondre à cette petite demande qui pourrait sembler anodine. D'accord ? Dieu, il s'intéresse dans tout ça. Donc, interrogeons-nous, cherchons les choses d'en haut et on va voir que dans le concret, ça va s'y mettre. D'ailleurs, la jeune fille, elle a eu un super lit en colo. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu, mais je n'ai peut-être pas prié assez pour ça. Mais voilà. Donc, ces versets nous invitent à orienter nos pensées, nos priorités, nos décisions vers Dieu et les réalités spirituelles. Et réellement, quand on fait ça, ça a un impact sur notre quotidien et ça découle sur les décisions que nous prenons ici-bas. Et ce que j'avais à cœur en préparant un petit peu tout ça, c'est de nous montrer qu'il y a une gradation. Quand on prend une décision avec Dieu, je vous ai mis quelques mots, alors on peut le développer plus, on peut le développer moins, mais j'ai l'impression que Dieu, il y a un curseur en fait, quand on prend les décisions avec Dieu. Évidemment, on est tous des chrétiens très 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 matures, et on est tous tout en bas, où on lui fait une confiance absolue, on abandonne totalement notre vie, il n'y a aucune décision qui est prise où on n'est pas sûr que ce soit complètement Dieu. Ça, c'est dans le monde idéal, c'est peut-être dans d'autres églises, mais ce n'est pas chez nous. Et chez nous, tous, on veut grandir et s'abandonner davantage à Dieu quand on veut prendre des décisions. Pour autant, je nous ai mis quelques mots pour voir qu'il y a une gradation. Cette gradation, elle s'adresse, je pense, quand on est un jeune converti. Elle s'adresse parfois dans certains domaines de nos vies, parce que parfois, il y a des domaines de nos vies où on fait complètement confiance à Dieu, et peut-être d'autres domaines où, pour l'instant, on aime encore assez diriger, on aime encore assez décider. On est bon ? Et surtout, Dieu, je trouve qu'il nous appelle à nous abandonner et nous appelle à lui faire totalement confiance. Mais dans la marche, parfois, on a des étapes un peu avant. Quand j'ai marqué autonomie, c'est je décide tout seul. C'est par exemple un inconverti. Moi, tous, on était inconvertis avant, hein, d'accord ? Oui ? Donc, quand on était inconverti, on décidait tout seul. On ne se souciait pas des choses de Dieu. On ne se souciait pas des réalités de Dieu. On décidait tout seul. Peut-être il y a encore des domaines de ma vie où je décide tout seul. Alors ça, je nous encourage à plus le faire. Mais c'est la première étape. On décide tout seul. On ignore Dieu. On fait abstraction de Dieu. On s'appuie uniquement sur nous-mêmes et on décide indépendamment. Qu'est-ce que moi je veux ? Je réponds à cette question. Qu'est-ce que moi je veux ? C'est l'indépendance, l'autonomie. Deuxième étape, je découvre peut-être un peu Dieu. Et là, je me dis, je vais le consulter. Je vais le consulter. Je demande son avis. Est-ce que Dieu il a un avis sur la décision que j'ai besoin de prendre? Je présente la situation à Dieu. Je ne suis pas encore aux étapes d'après. Mais quand même, je lui présente voilà, les choses, la décision qu'il aurait à prendre, je lui présente la situation. Je prie, je demande peut-être un peu la sagesse, je cherche peut-être un petit éclairage spirituel, et s'il y avait quelque chose. Je prends Dieu, et ça n'a rien de péjoratif, c'est dans la marche avec Dieu, Dieu c'est mon consultant, je le consulte. D'accord ? Qu'est-ce que Dieu pense de mon projet ? Ça répond à cette question-là. Qu'est-ce que Dieu il en pense ? Troisième, discernement. Là, je réfléchis avec Dieu. Vous voyez la différence ? Je réfléchis avec Dieu. Et j'essaye vraiment de discerner. J'associe Dieu à ma réflexion. Je confronte mon projet aux Écritures. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose à faire. De chercher, est-ce que dans la Bible, il y a des histoires qui se rapprochent ? Est-ce que dans la Bible, il y a des histoires, des gens qui ont vécu des choses qui se rapprochent beaucoup de la décision que j'ai à prendre ? Et vous savez quoi ? C'est un truc de fou. C'est que probablement, il y en a. Probablement, il y en a. Et du coup, c'est de chercher soit le bon exemple, soit parfois c'est le mauvais exemple, des gens qui l'ont mal fait. Mais ça nous instruit. Et là, la réflexion, elle est associée à Dieu. Peut-être un verset biblique aussi, même certainement un verset biblique. Il y a plein de passages dans la Bible qui répondent quand on veut prendre des décisions. Et là, je suis dans l'étape où je discerne, je réfléchis avec Dieu. Quelle décision correspond le mieux aux valeurs et à la volonté de Dieu ? J'en suis à cette étape-là. Vous voyez que c'est plus que la consultation. Quelle décision correspond le mieux aux valeurs et à la volonté de Dieu ? L'étape d'après, la soumission. Là, je me soumets. Je privilégie la volonté de Dieu. Ah, c'est l'étape encore au-dessus. C'est compliqué au début. Je trouve qu'au début, c'est très compliqué. Très souvent, on vous dit oui, mais c'est pour le meilleur. Oui, d'accord. Mais quand on est dedans et qu'il faut le faire, il y a un pas de foi, il y a un pas de confiance en Dieu. Il y a un gros pas d'obéissance en Dieu. Amen. Là, on se laisse guider. On donne la priorité à la volonté de Dieu. On obéit, on s'aligne sur ses commandements. Suis-je prêt à choisir ce que Dieu veut, même si ce n'est pas mon premier choix ? Vous voyez que dans la prise de décision, on a maturé, on a vraiment évolué. Suis-je prêt à choisir ce que Dieu veut, même si ce n'est pas mon premier choix, même si ce n'est pas ma première volonté, même si ce n'est pas la décision que je voulais prendre au départ, quand je décidais tout seul ? Et le dernier, confiance en abandon. Un abandon confiant, je remets le résultat à Dieu. C'est-à-dire que là, je cherche la pensée de Dieu et je vais me soumettre cette décision complètement à ce que Dieu il a prévu. Et là, je m'abandonne en pleine confiance en ce que lui, il a voulu faire. Amen. Là, je confie mes projets, je lui fais totalement confiance, j'accepte ce que Dieu voudra faire et je me repose. Il y a cette dimension à prendre vraiment en compte et j'ai l'impression que plus on grandit avec Dieu, je me repose sur sa providence. La providence, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas souvent, mais je me repose sur sa providence. Parce que je sais que Dieu, il y a la providence de Dieu, parce que j'ai pris la décision avec lui. Amen. J'ai quelques précisions par rapport à ça. D'abord, le curseur, ce que je vous ai dit, c'est que réellement, entre un inconverti, un disciple de Jésus-Christ mature, tout ça, pour moi, c'est des étapes, c'est des gradations. Et le curseur, Dieu, il ne va jamais nous pousser à aller, il nous invite à aller plus loin, mais il ne va pas nous obliger. Ça veut dire que c'est toi et moi qui choisissons où on met le curseur. Où je mets le curseur, parfois dans certains domaines de ma vie. Il y a des domaines de ma vie où peut-être je suis complètement indépendant à Dieu, je fais ce que je veux. Peut-être qu'il y a d'autres domaines de ma vie où je me suis dit, là je lui fais confiance parce que je l'ai expérimenté. Mais l'invitation de ce matin, c'est le curseur, le mettre tout en bas là, sur l'écran, confiance et abandon dans tous les domaines de ma vie. C'est l'invitation de ce matin. Amen. Deuxième point, donc ça c'était le curseur par rapport à ça. Et deuxième attention, c'est que parfois on a des filtres dans nos motivations. Parfois nous avons des filtres dans nos motivations. Je vous donne un exemple. Quand on a acheté la salle ici, il y a des années, on a acheté le bâtiment. Et quasiment tout le monde était d'accord avec ça. On le partage, voilà le projet qu'on a, on pense que ça vient de Dieu, on le partage avec les frères et sœurs de l'Église. Et j'ai quelqu'un qui me dit, hors de question, ça ne vient pas de Dieu, pas du tout. Et du coup, on discute après, pas devant tout le monde, on discute que les deux, et je me dis, mais pourquoi tu penses ça ? Et en fait, la personne avait vécu une division d'Église, une catastrophe dans l'Église, avant, dans une autre Église, suite à l'achat d'un bâtiment. Donc la personne était marquée par ça, et c'est normal. La personne était traumatisée par ça. Du coup, quand une nouvelle décision était à prendre par rapport à ça, la personne, elle m'a dit non, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'avant, ça s'était mal passé. Ça s'appelle un filtre et bien souvent nous en avons. C'est la même chose, j'ouvre la parenthèse et je la referme tout de suite, c'est la même chose dans les paroles prophétiques. On le voit, on partage des paroles prophétiques et c'est pour ça qu'on tient, quand on partage des paroles, à jamais être deux. Il y a toujours quelqu'un avec, c'est-à-dire la personne qui donne, la personne qui reçoit, et il y a soit un serviteur de groupe de maison, un responsable ou quelqu'un avec. Parce que souvent on a des filtres. Et quand je veux tellement entendre quelque chose de Dieu, parfois la personne me dit des mots et moi je les comprends différemment. Et sincèrement, on le voit assez souvent. Donc c'est pour ça que quand il y a la troisième personne, attends, c'est pas ça qui a été dit. Ou alors, il n'y avait pas que ça. Vous savez, si par exemple, on reçoit une parole prophétique, si tu, c'est une condition. Ça veut dire que si je change quelque chose, alors. Ben souvent, les gens, on se rappelle du alors. Mais le si tu avant, d'accord ? Je donne un exemple. Si tu, aujourd'hui, tu es dans une situation qui ne va pas, il faut que tu obéisses à Dieu. Si tu obéis à Dieu, alors. Ben le si tu obéis à Dieu, souvent, on l'a oublié et on a retenu le alors. Et là, on voit la bonne chose qui va arriver. Ouais, mais attends, avant, il y a le si. C'est conditionnel. Et donc ça s'appelle un filtre. On l'a pour les paroles prophétiques. On l'a parfois quand on prend les décisions. Je referme la parenthèse pour les paroles prophétiques. L'autre chose par rapport au filtre, je trouve, c'est le vécu. C'est l'exemple que je vous ai donné. C'est l'expérience malheureuse. C'est parfois la doctrine. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que parfois, des gens dans les têtes, on a des choses, on pense que c'est des principes théologiques, on pense que c'est des principes bibliques, et ça nous met des filtres qui sont faussés. Et alors, je l'ai moins, mais des gens de l'extérieur, je l'ai assez souvent. Des gens qui me disent des trucs, mais je leur dis, mais ça, c'est marqué où dans la parole de Dieu ? Et en fait, ils font des décisions, et ils créent parfois des manières de faire, avec, comme au préalable, il y a un filtre qui, pour nous, ne vient pas de Dieu, bah, du coup, le truc, il est mal fait, il est faussé. L'autre chose, c'est la peur. La peur est un énorme filtre dans nos décisions. Et donc ça, il faut lutter contre ça. Il faut énormément lutter contre ça, parce que la peur fait qu'on prend parfois des mauvaises décisions. C'est bon ? C'est mes filtres, ce sont mes filtres. Sur les points d'attention pour les motivations, pareil sur les périodes d'instabilité, on ne le dit pas assez souvent, les périodes d'instabilité, on considère quelqu'un qui vit un choc, en général un drame, on arrive à en vivre un par an. Quand on vit 2-3 drames par an, la perte d'un parent, une séparation très compliquée, des drames, si des gens en vivent un par an, on est dans une période instable. Donc là, quand il faut prendre des grosses décisions, moi je dis toujours aux gens, ne prenez pas des grosses décisions dans cette période-là. C'est bon ? Parce qu'émotionnellement, on est chamboulé de partout. Parce que voilà, c'est plus compliqué encore de prendre la bonne décision quand on est des périodes où on vit des choses comme ça. C'est bon ? Donc grosses maladies, des choses comme ça. C'est le contraire, c'est qu'il faut plutôt chercher la stabilité que tout de suite prendre des grosses décisions. Et sauf que souvent, comme on n'est pas bien, on a tendance à exagérer encore le fait de prendre des mauvaises décisions. Et la pression. Dernier point d'attention par rapport à nos motivations, c'est la pression. Et ça, on le voit souvent, que ce soit la pression familiale, c'est-à-dire qu'on pousse à se marier parce que dans certaines cultures, il faut vraiment se marier à tel âge. Donc là, il y a une pression familiale qui est malsaine et on prend des décisions qui ne sont pas bonnes. J'ai mis pression environnementale, c'est-à-dire le climat autour qui nous pousse à ça. L'exemple que je donne tout le temps, parce que j'ai l'impression de voir tous les jours, c'est vous visitez un appartement pour acheter un appartement. Et là, c'est sûr, l'agent immobilier vous dit il va falloir vous positionner très vite parce que j'ai une autre visite avant vous et la personne est très, très intéressée. Mais ça, c'est une pression. Moi, je ne vis pas dans ce monde-là. Donc, là, une fois ça m'est arrivé, je lui dis, vous savez, je crois en Dieu. Si cet appartement, il est pour moi, Dieu, il me le réserve. D'accord ? Donc, il faut l'expliquer aux gens. Hein. Vous ne le dites pas forcément comme ça, mais vous l'expliquez aux gens. C'est l'occasion de témoigner aussi. Mais du coup, cette pression-là, elle ne vient pas de Dieu. Et l'autre pression que j'ai mise, ça peut être aussi l'Église, malheureusement. Alors on travaille pour ça. C'est parfois une pression qu'on doit se comporter d'une certaine manière dans l'Église, alors que c'est le contraire. L'Église, c'est le lieu où on crée le cadre pour que les gens puissent être transformés, avancer et grandir avec Dieu. Donc s'il y a des pressions des gens, si c'est malsain, ça n'a rien à faire là. Amen. Ça, c'est pour nos motivations. Deuxième idée, est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je suis en paix quand je prends une décision ? Et c'est une vraie paix, c'est la paix de Dieu. Je vous ai mis Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, donc c'est les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que si je marche avec Dieu, normalement, j'exprime, ou en tout cas, je grandis dans l'expression de ces fruits de l'esprit. C'est-à-dire que normalement, si je vis depuis 10 ans avec Dieu, je suis plus patient aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand je l'ai rencontré. Si je vis avec Dieu depuis 10 ans, normalement aujourd'hui je suis plus bon qu'il y a 10 ans. Si je vis avec Dieu, je suis encore plus bienveillant qu'il y a 10 ans. je suis encore plus fidèle qu'il y a 10 ans. Amen. Romains 8, verset 6, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La tendance de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'esprit de Dieu, quand on vit avec, il y a une paix qui vient. Et cette paix, elle est surnaturelle. Et pour avoir vécu sans, je vous garantis qu'il y a une différence. C'est tac, tac. Et quand on connaît cette paix-là, ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Et parfois, quand on est tenté de prendre des mauvaises, ben parfois on n'est pas bien. Et ça marche y compris quand il y a des décisions difficiles à prendre. Des décisions où on se rend compte que l'impact il va être important. Ben parfois, quand on prend la décision, la paix, elle vient. Ça vous l'a déjà fait, ça ? Des décisions qui parfois sont importantes, difficiles à prendre, mais une fois qu'on a acté qu'on prenait cette décision-là, la paix de Dieu, elle vient. Et ça me confirme que c'est la bonne décision. Et tant que je n'ai pas pris la décision, notamment parce que parfois j'avais peur des impacts, parce que je me rends compte de ce que ça veut dire derrière, tant que la décision n'est pas prise, je ne suis pas en paix. Et quand je prends la bonne décision, je sais que je suis en paix. Amen. C'est Jésus le prince de paix. Donc quand je marche avec lui, mes décisions elles doivent être prises paisiblement. Alors même que on n'est pas forcément d'accord, ou mon interlocuteur n'est pas forcément d'accord dans ma décision, ça ne me gêne pas. Parce que je vis avec le prince de paix. Donc après, il y a la manière de le dire, c'est un autre sujet, mais je peux prendre ma décision paisiblement. Et quand je préparais ça, le lien entre les fruits de l'esprit et le fait de prendre des bonnes décisions, il est évident. Je répète, il existe un lien entre les fruits de l'esprit, il existe un lien entre ce que vous voyez là derrière moi et le fait de prendre une bonne décision. Je vous donne un exemple. Si je ne suis pas du tout patient, je suis patient mais pas longtemps, très peu de temps, ça va être compliqué de prendre des bonnes décisions. La tempérance. Tempérance, c'est... vous prenez un chiot un peu foufou. Il n'y a pas de tempérance là. Ben, du coup, ça va être compliqué. Si on est dans nos têtes ou dans notre manière de faire, on est agité tout le temps, ça va être plus compliqué de prendre une bonne décision. Par contre, si on a ces fruits de l'esprit, qu'on est tempéré, qu'on est patient, qu'on est fidèle, reconnaissez que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre une décision paisiblement. Amen. Donc, il y a un lien entre je grandis avec Dieu, je m'intéresse aux choses d'en haut, les fruits de l'esprit habitent en moi, je vis avec le prince de paix, j'exprime ces fruits de l'esprit et après je peux prendre des décisions beaucoup plus paisiblement et surtout prendre les bonnes décisions. Amen. Alors j'ai mis des exemples, mais il y a des exemples trop personnels, donc je ne veux pas les mettre, mais je cherche. Donnez-moi une seconde. Exemple de la paix, inconverti, c'est avec des gens inconvertis, c'est à mon travail, il y a des années, il y a une jeune maman, j'avais déjà donné l'exemple, je crois. Elle me dit, il y a ma fille qui va dormir chez des amis, chez une copine à elle, enfant petit, hein, chez des amis à elle, et je ne suis pas en paix. Elle m'a dit, ouais, ça m'embête. Mais je lui ai dit, mais la mets pas. Je pense que c'est dans la conscience quelque chose, y compris chez les inconvertis, l'Esprit de Dieu fait ça aussi, de nous dire, mais si tu n'es pas en paix, tu ne la mets pas. Mais c'est hors de question. Et en fait, parfois, pour pas gêner l'autre parent, on va quand même envoyer ta gamine. J'ai dit, mais t'es cinglé ou quoi ? J'ai dit, t'es pas en paix, il y a quelque chose que tu sens pas, mais surtout ne le fais pas. Surtout ne le fais pas. Oui. Et parfois, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit, ouais, mais elle a été invitée, ouais, mais elle va être rejetée, ouais, mais je sais pas quoi, on serait presque tenté de laisser la gamine aller dormir chez l'autre personne alors qu'on n'est pas à l'aise. Mais surtout pas. Oui. J'espère que c'est évident pour tout le monde. Hein. Amen. Une autre fois, pareil. Mais je trouve que ce principe-là de paix, il est parfois compliqué à expliquer, à retranscrire. Je me rappelle une fois, je suis avec quelqu'un qui veut absolument présenter quelque chose à l'église ici. Et la personne, je parle avec un quart d'heure, une demi-heure, et je ne suis pas à l'aise, quoi. Je ne suis pas à l'aise. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'essaie de lui dire poliment. Je lui dis, non, écoutez, c'est des sujets, on en parle déjà, nous, à l'église. Voilà. Mais en fait, au fond de moi, je ne suis pas à l'aise avec cette personne. D'accord ? Et donc dans ma tête, je me dis, mais jamais tu pourras venir chez nous, jamais. Je ne suis pas à l'aise, mais je ne peux pas, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais je sens au fond de moi qu'il ne faut pas. Vous savez ce qui se passe ? Je ne sais pas, 15 jours plus tard, la personne contacte Jean-Marie, lui dit pas qu'il m'a parlé, pour venir ici. D'accord ? Et je me dis, mais d'où tu fais ça ? Tu as eu un pasteur, tu ne vas pas appeler les 5 pour savoir si tu peux venir. Donc rien que ça, un truc comme ça, et en fait c'est fait exprès, hein, c'est fait dans mon dos, parce que si Jean-Marie lui dit oui, ben du coup c'est bon, moi je, voilà. Mais sauf que Jean-Marie m'appelle, on en discute, je dis mais Jean-Marie, moi la personne je l'ai rencontrée physiquement, je ne suis pas du tout à l'aise. Alors, c'est parfois un peu compliqué à expliquer aux gens, mais c'est la paix qui est au fond de nous. Et ça, il faut le chérir. Et j'avais ce mot quand je préparais, alors ce mot peut-être un peu compliqué, mais subrepticement. Subrepticement, ça veut dire un tout petit peu, ça veut dire discret, ça veut dire léger. Et cette paix de Dieu, parfois, au début, elle est légère. On le sent, on a parfois du mal à l'exprimer ou à mettre des mots ou à l'expliquer, comme là, de l'expliquer, mais on le sent un petit peu. Ce subrepticement. Je ne vais pas vous demander d'écrire, mais voilà, subrepticement. Il y a un petit truc où on est un peu en paix. Et bien, c'est cette chose-là qu'il faut apprendre à discerner et en prendre soin, parce que je crois profondément que c'est l'Esprit de Dieu qui nous alerte. Amen. Et je trouve qu'en grandissant, en ayant beaucoup plus de décisions à prendre aujourd'hui, dans ma vie personnelle, en ayant beaucoup plus de décisions à prendre aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans, ben ça va des choses comme ça, très souvent, ça va du tac au tac. Et si je sens que je n'ai pas la paix au début, peu importe le nom de la personne, hein, j'ai une autre personne connue, vous ne le répéterez pas, hein, j'ai une autre personne connue qui nous envoie un mail pour dire « je prêche dans tel endroit, je prêche dans tel endroit ». En gros, il nous fait la grâce de pouvoir venir prêcher dans notre église. Alors déjà, de t'inviter chez quelqu'un, je trouve ça surprenant, mais ça arrive. Je croyais que j'avais tout vu, mais je ne m'attendais pas à celle-là. Donc on a un mail, le bébé, elle écrit, hein, qui dit « si vous voulez, je peux venir prêcher chez vous ». Mais en gros, je m'invite chez toi. Hein. C'est, tu fais quoi ce soir? Si vous faites quoi ce soir? Je viens manger chez vous ce soir. Hein. Mais attends, tu lis le mail, tu dis « mais c'est surprenant ». Enfin, je ne sais pas, moi je ne m'invite pas à prêcher quelque part. C'est parce que je connais les gens, parce qu'il y a une relation, etc. Et quelqu'un de connu, mais du tac au tac, je lui dis « merci beaucoup ». Mais non, ce n'est pas du tout notre manière de fonctionner. Et ça, on en a quand même régulièrement. Difficile à expliquer, mais prenez soin de cette paix. Et c'est vraiment une très bonne grille de lecture, je trouve. On ne se ment pas à nous-mêmes, mais on le voit quand on est en paix ou pas. Y compris quand c'est des décisions difficiles. Y compris quand c'est des décisions à prendre, et surtout en gérant, ben, vous voyez, l'église, etc., où je sais que derrière, on va se faire disputer. Mais ce n'est pas grave. Je sais que la décision, la paix a plus de valeur, la paix que je ressens de Dieu a beaucoup plus de valeur que les conséquences que ça peut avoir. Et je dénigre pas les conséquences. Mais cette paix-là, elle n'a pas de prix. Amen. On continue. Les motivations, la paix. Troisième, il y en a cinq. Hein, vous n'en dormez pas tout de suite. Troisième, demandons conseil. Et c'est quelque chose où je suis toujours surpris. Toujours surpris. Moi, depuis tout petit, on m'a dit, mais Pierre, comment il me dit, on me dit comment, moi, j'étais éduqué avec, si t'es, en gros, c'est pas dit méchamment, si tu étais intelligent, tu aurais un prix Nobel. Comme tu n'as pas de prix Nobel, tu vas chercher des gens plus intelligents que toi. Et tu demandes conseil à tout le monde. J'ai été éduqué comme ça. Donc moi, le côté d'aller demander conseil à des gens, par contre, on ne m'a jamais dit, tu suis aveuglément les conseils des gens. Mais on m'a dit, va chercher des gens qui sont plus intelligents que toi. Et demande leur conseil. Et chéris ça. Et la Bible nous le dit. Demandons conseil. Proverbe 24, verset 6. Et en plus, vous arrivez à lire ou c'est trop petit? Proverbe 24, verset 6. Et en plus, je vous l'ai mis en trois versions. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. En effet, c'est pour une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement et la délivrance consiste dans le nombre de conseillers. C'est des versions différentes de traduction, mais vous comprenez la valeur de ça, à la fois le nombre de personnes et la sagesse qu'on peut avoir là-dedans, d'avoir du conseil en dehors. Je vous donne l'exemple aussi, ce n'est pas pour reparler de ça, mais c'est pour, je trouve que ça sert à la formation, ça sert à tout ça. Pour Éclosion, j'ai reçu de donner l'offrande du dimanche, on en a parlé, à l'église persécutée. Et en fait, quand je reçois ça, alors je suis désolé, mais les 50 pasteurs, je ne les ai pas vus. J'ai vu ma femme, forcément, donc je lui balance l'idée, mais les autres, on ne s'est pas vus, et tout s'est emboîté très vite. Donc en fait, j'avais deux ou trois autres frères et sœurs avec qui j'étais, parce que j'étais à l'Axode, et parce qu'ils étaient, une fois, parce que le samedi, c'était les femmes, donc j'ai demandé à une ou deux sœurs, voilà, et à un ou deux frères aussi qui étaient là, des gens matures, et j'aurais dit, écoutez, j'ai reçu ça, j'ai cette pensée-là. Les trois ou quatre me disent, ils m'ont pas dit oui, ça vient de Dieu, c'est sûr, vas-y, mais ils m'ont dit oui, ça fait écho. Les trois ou quatre m'auraient dit non, j'aurais pas pris la décision. Le dimanche matin, rapidement, j'ai vu Jean-Marie une demi-heure avant le culte, je dis, et surtout qu'on fait jamais ça entre nous, on cherche la pensée de Dieu, etc. Et là, je suis juste arrivé, j'ai pris le raccourci en disant, écoute, je suis sûr que ça vient de Dieu, laisse-moi faire. D'accord? Et du coup, on fait ça. Mais les 3 ou 4, je sais plus, personnes que j'ai vues la veille, si elles m'avaient dit non, j'aurais vraiment encore et encore et encore remis ça devant Dieu. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que je vais suivre le conseil, mais ça veut dire qu'on demande le conseil. La Bible nous invite à avoir un grand nombre de conseillers autour de nous et pour toutes les décisions de nos vies. Et ce n'est pas, je vais dire, c'est pas mon copain du bar PMU avec qui j'étais quand j'étais inconverti, avec qui je buvais trop. Ce n'est pas lui à qui je demande conseil. Ou alors si, je lui demande conseil et je fais le contraire de ce qu'il me dit. Quand on dit le grand nombre de conseillers, c'est des gens plus matures, sages dans la foi, où je reconnais qu'il y a quelque chose sur eux, qui sont bons dans leur domaine. Amen. Et à l'inverse, j'ai aucun problème, moi, alors ça dépend des sujets, mais parfois sur certains sujets, j'ai aucun problème que la personne soit inconvertie. Parce que de temps en temps, on me dit, oui, mais lui, il est évangélique. Ouais, mais s'il est évangélique et qu'il n'est pas bon, je m'en moque. Hein. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui ou non? Je reformule avec un exemple. J'aime bien le vin, je bois de temps en temps du vin. Je bois du vin bio parce que c'est le vin qui a le plus de pesticides. Ça ne me gêne pas d'en boire ou qui n'est pas bio, mais pour vous expliquer. Mais ce n'est pas parce qu'il est bio qu'il est bon. On est d'accord? Donc ce n'est pas parce que la personne elle est évangélique qu'elle a le conseil de Dieu. Ok? Je préfère avoir quelqu'un de chrétien, engagé, ferme dans la foi, évidemment. Mais il y a d'autres sujets où si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais sur le principe là, j'ai besoin, ça ne me gêne pas. Et par contre, je ne suis pas, parce que parfois on le rencontre, on a l'impression que comme il y a l'étiquette, je suis moi aussi, je suis chrétien, frère, moi aussi je suis chrétien, mais du coup, ce n'est pas un passe-droit pour moi, d'accord? Souvent, entre frères et sœurs, souvent je trouve qu'il y a une confusion entre conseiller, entre prendre du conseil et obligation de suivre le conseil. De part et d'autre, hein, de la part de celui qui demande et de la part de celui qui donne. Celui qui donne, on a l'impression que si tu ne respectes pas ce que je t'ai dit, tu me demandes conseil, je te donne un conseil, tu ne respectes pas, du coup je suis fâché avec toi. Mais n'importe quoi, il m'a demandé conseil, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je ne l'ai pas mis, mais c'est ça. On est d'accord avec ça? Et moi, il me demande conseil, il n'est pas obligé de le suivre. Hein. D'accord? Est-ce que c'est bon? Mais n'hésitons pas à demander conseil. Pareil, on ne se cache pas derrière le conseil que j'ai reçu. Moi, des fois, je suis profondément surpris de gens qui me disent « Ah oui, mais on m'a conseillé ça. » On t'a conseillé ça, mais toi, enfin, Dieu, il parle à tout le monde. Hein. Il n'y a pas une caste privilégiée à qui Dieu il parle. Dieu parle à tout le monde. Hein. Donc, tu prends le conseil et tu vas dans ta chambre et tu cherches la pensée de Dieu. Amen. Ou alors, mieux encore, tu cherches la pensée de Dieu, tu te dis « Je pense avoir reçu ça, je demande conseil à quelques frères et sœurs matures dans la foi et après j'y vais. » Mais c'est toi qui prends la décision devant Dieu. Amen. Je lisais le premier psaume. Ne t'assois pas sur le banc des moqueurs. Si tu t'assois, c'est l'exemple que j'ai donné avec le bar PMU, qui est un peu ancien, mais voilà. Tu t'assois sur le banc des moqueurs. Si c'est ces gens-là qui te conseillent, c'est sûr que ça ira pas. Si je suis assis sur le banc avec des gens qui critiquent, ce sera un conseil de critiqueur que je vais recevoir. Si je cherche des gens matures dans la foi, qui ont donné leur vie et qui marchent avec Dieu, ben, j'aurai le conseil de gens qui sont matures, qui marchent avec Dieu, et je ne sais plus ce que j'ai dit. Amen. Mais si je suis sur le banc des moqueurs, le conseil va être de moqueurs. Et ce n'est pas ça qu'il faut. Amen. Quatrième, donc troisième, c'était demandons conseil. Quatrième, demandons la sagesse. Jacques, et je ne sais pas, qui, vous ne levez pas la main si vous voulez, aussi levez la main, qui depuis un mois a demandé la sagesse à Dieu? Hop, pas mal. Soit c'est moi qui suis inspiré, soit c'est vous, mais super. Ou alors les deux. Ah ben super, ben très bien, très très bien, très très bien. Continuez, et les autres, faites-le aussi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et quand on me dit que la Bible, elle est compliquée à comprendre, c'est pas vrai. Ce verset-là, il n'est pas compliqué. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et je pense que par rapport à la sagesse de Dieu, on en manque tous, qu'il la demande à Dieu, donc qu'il demande à Dieu la sagesse, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Point. Tous les mots sont faciles à comprendre. Amen. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de toi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de toi. Psaume 51, verset 8. Dieu souhaite nous donner cette sagesse, et on peut et on doit. Je reformule, on peut et on doit la recevoir. Un chrétien, normalement, on doit briller par les fruits de l'esprit que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi par notre sagesse. Amen. c'est bien au-delà que du bon sens. Même le bon sens, il en manque beaucoup aussi, mais c'est au-delà du bon sens. Et l'autre chose, quand je réfléchissais à la sagesse, c'est que je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je suis réservé. C'est que souvent, on a tendance, quand on veut prendre une décision, à faire deux colonnes. On l'a tous fait. Avantages, inconvénients. Dans la Bible, on peut en discuter après si vous n'êtes pas d'accord, mais dans la Bible, je ne le vois pas comme ça. Je ne le trouve pas souvent. Je ne trouve pas souvent ce côté où il y a marqué « tu mets les avantages, tu mets les inconvénients quand tu veux prendre une décision ». Je pense que ça, c'est des choses charnelles. Et moi, je me suis converti, je ne sais pas, vous aussi, je pense qu'on s'est converti, on n'avait pas fait une croix avantages et inconvénients, une colonne. On n'avait pas fait deux colonnes. Les avantages, si je fais une démarche avec Dieu, les inconvénients, si je fais une démarche avec Dieu. Oui. Et pourtant, on est nombreux, je pense, à faire avantages et inconvénients. OK, c'est du bon sens. OK, il y a un peu de sagesse. Je pense qu'on s'éloigne. C'est pas une, je pense que ce n'est pas une attitude spirituelle. Je pense qu'il y a mieux à faire quand on veut prendre des décisions. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord. J'ai marqué pour la conversion, est-ce que tu as fait deux colonnes ? Parfois, on va prendre des décisions qui sont folies pour les hommes. Je le crois aussi. Les décisions de Dieu, le Père, d'envoyer son Fils sur la terre, est-ce que c'est une bonne décision ? Pour toi et moi, oui. Mais si je fais avantage et inconvénient pour Dieu, le Père, vous voyez que ce n'est pas ça, c'est une folie. La croix est une folie. La croix est une folie. Le fait pour Jésus de remonter au ciel, tous ceux qui étaient là, ils ont dit « Non, non, reste avec nous. » Et pourtant, c'était une bonne décision. Parce qu'il a dit « Il y a l'Esprit qui viendra, il y a le Consolateur qui viendra. » Amen. Plutôt que de se demander avantages et inconvénients, je crois profondément, c'est est-ce que c'est la pensée de Dieu ou pas ? Est-ce que c'est la vérité ou pas ? La vérité, la paix, vous vous rendez compte que la paix, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc quand on prend nos décisions, en fait, c'est d'être connecté à Jésus-Christ. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ? Est-ce que c'est la vérité ? Et le reste, non, pas de guillemets, le reste est moins important. Amen ? Donc demandons la sagesse. Cinquième point. Je l'ai mis parce que je pense que c'est très important. Tu peux le mettre. On a le droit à l'erreur. Et heureusement. Parce que si je dis qui a pris que des bonnes décisions depuis qu'il a fait une démarche avec Dieu. Non, voilà, tu n'avais pas écouté la fin de la question. Qui a pris que des bonnes décisions depuis qu'il a fait une démarche avec Dieu. Voilà, on est d'accord, c'est évident. Et ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Et on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Ça me fait penser aux impôts, vous l'avez vu ça ? Les impôts, maintenant, ils ont créé Oups. Il y a un site internet qui s'appelle Oups. Ça veut dire que j'ai gagné 100 000 euros, je me suis trompé, j'ai mis zéro. Oups, j'ai droit à l'erreur, j'ai pas de pénalité. Bref, tout ça pour vous dire, on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur aux impôts, mais c'est mieux de faire juste. Et on a le droit à l'erreur avec Dieu, mais c'est pareil, c'est aussi mieux de prendre les bonnes décisions tout de suite. Je crois que je nous ai mis un peu les idées. Le premier, c'est reconnaître. Le premier, c'est reconnaître. Reconnaître honnêtement si on s'est trompé. Reconnaître honnêtement si on a fait une erreur. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ne réussit point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc quand nous reconnaissons que nous avons pris une mauvaise décision, que nous les voilà, on demande à Dieu de le reconnaître, Dieu il les transforme. Psaume 51. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Ça, c'est David, après avoir pris de très mauvaises décisions, qui nous dit ça. Donc, reconnaître honnêtement l'erreur. Deuxième idée, se repentir si la décision a impliqué un péché. Parce qu'il y a des décisions qu'on a prises pas avec Dieu, voilà. Mais il y a des décisions, si elles impliquent un péché, là, c'est demander pardon à Dieu. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Se repentir si la décision que nous avons prise a impliqué un péché. Vraiment, il faut demander pardon à Dieu. Corriger ce qui peut l'être. Ça veut dire que ma décision, elle a peut-être eu des conséquences négatives. C'est ma mauvaise décision. Mais ça peut être demander pardon. Ça peut être présenter des excuses. Ça peut être réparer un tort. Ça peut être revenir sur une décision. Ça peut être changer de direction. C'est tout ça, corriger ce qui peut l'être. C'est qui c'est qu'on a rencontré ? Ah oui, non, je veux pas d'exemple. Mais quelqu'un qui s'est converti, voilà, récemment, pardon. Quelqu'un qui s'est converti récemment, et qu'est-ce qu'elle me dit ? En gros, il y a des problèmes de sous avec quelqu'un, mais du coup, elle lui a rendu les sous. C'est ça, corriger ses torts. Alors, c'était avant, c'était pas chrétienne. Mais c'était avant. Mais du coup, c'est corriger ces trucs. Et donc, du coup, quand on a pris des mauvaises décisions, quand on a fait des mauvais choix, si on peut une partie les corriger, on peut les corriger. Amen. On doit les corriger. Quatrième, dans le droit à l'erreur, faire confiance à Dieu malgré les conséquences. Elle nous montre que Dieu peut agir à travers nos erreurs. Et ça, c'est toute l'histoire de nos vies, même si on essaye d'en faire moins. Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose, donc toute chose, ça veut dire y compris les mauvais choix, y compris les mauvaises décisions que j'ai prises, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, ça nous encourage à repartir et à reprendre des bonnes décisions. Amen. Conclusion, les conséquences d'une bonne décision, honnêtement, on vit beaucoup mieux. Pour avoir vécu sans Dieu et pour vivre avec Dieu, quand on prend des bonnes décisions, que les motivations sont bonnes, qu'on a la paix, qu'on a demandé conseil et qu'on a la sagesse de Dieu qui nous éclaire, on vit tellement mieux, réellement. On peut prendre des décisions beaucoup plus dures, mais on vit tellement mieux. Je vous assure, au fond de nous, on vit tellement mieux. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Recommander à l'Éternel, c'est confier, c'est remettre. C'est-à-dire que nos décisions, et notamment nos décisions importantes, remettons-les à Dieu. Nos projets seront affermis, les projets réussiront, pardon. Réussir, c'est dans le sens d'affermir, de établir, de rendre solide. Ça veut dire que les décisions, réussir, ce n'est pas le succès. C'est réussir dans le sens que les décisions vont être solides, elles vont avoir du poids, elles vont marquer ce qu'on fait. Amen. Et un tout petit peu plus loin dans les proverbes, le cœur de l'homme médite sa voix. Normalement, vous devez faire la suite tout seul. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est-à-dire qu'alors même qu'on confie nos décisions à Dieu, et c'est ce que je vous ai partagé tout le matin, alors même qu'on confie nos décisions, il y a la main de Dieu qui nous dirige. Amen. On fait le plan, mais c'est Dieu qui demeure souverain dans l'aboutissement de ce que nous avons fait, et y compris quand on a pris des mauvaises décisions. C'est la bonne nouvelle du jour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, les choses d'en haut, les motivations. Demandez conseil, demandons la sagesse de Dieu, confions nos projets à Dieu et ensuite on prend la décision et on avance avec foi et fidélité. Amen. Ce n'est pas une loi de Moïse, c'est quelques clés, quelques sujets pour quand il y a des décisions à prendre. On a beaucoup de gens qui nous consultent aussi parce qu'on a des gens qui nous disent qu'ils veulent déménager pour venir vivre ici. Je trouve que c'est des super sujets. Moi, je les décourage. Mais après, quand je vois que j'ai des gens qui veulent vraiment le faire, ben, je leur dis « Ouais, si c'est Dieu qui l'a dit, ben, venez, avec plaisir, on vous accueillera. » Mais je les décourage dans le sens de « Je veux être sûr que ce soit des gens qui prennent des bonnes décisions pour le déménagement. » Je sais qu'on a parlé avec plusieurs des décisions sur le travail, sur comment on fait pour prendre la décision dans le travail par rapport aux choses de Dieu. Est-ce que, voilà. Il y a beaucoup de sujets comme ça, beaucoup de sujets. Et moi, je mets toujours l'Église dans mon choix. Alors, vous allez me dire, il est pasteur, c'est normal. Mais même avant, je me rappelle, premier job, j'avais le choix d'un boulot. Et en premier, ce que je m'étais dit, c'est que je veux un endroit où il y a une église à côté. Un endroit où il y a une église où je peux grandir, parce que je savais que l'église allait participer à ce que je puisse grandir dans la foi. Amen. Quand vous êtes originaire du sud de la France, c'est rare que les gens ils soient contents de venir vivre dans le nord-est, même si la région est très belle. Mais vous reconnaîtrez que quand vous arrivez du sud, il y a un petit choc. Et c'est rien du tout par rapport au fait de savoir qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. Amen.